Il est 7h48 et c'est la suite de cette édition du 7-9 consacrée à Jacques Chirac. Au micro d'Inter, un proche parmi les proches qui fut son secrétaire général à l'Élysée, son ministre de l'Intérieur, son ministre des Affaires étrangères et son premier ministre. Dominique de Villepin, bonjour.
Bonjour.
Bonjour Dominique de Villepin et merci de nous avoir réservé vos tout premiers mots depuis hier, depuis la mort de Jacques Chirac. Vous n'avez pas parlé. Alors quel sentiment vous traverse ce matin? Quelle image vous habite?
C'est à la fois un immense chagrin et en même temps une très grande reconnaissance. Je fais partie de cette génération politique qui doit tout à Jacques Chirac. Je ne serais moi-même jamais entré en politique si ça n'avait été avec lui, pour lui et à cause de lui. Et je pense que c'est quelqu'un que les Français ont appris à découvrir par petits morceaux, comme parlementaire, maire de Paris, ministre, premier ministre, puis président de la République. Et c'est quelqu'un qui était dépourvu de toute arrogance, dépourvu de tout artifice de communication. Il ne cherchait pas à paraître pour ce qu'il n'était pas, et qui, au fond, ressemblait un peu à tous les Français. À la fois râleur, un peu menteur, gouailleur, ripailleur, mais en même temps, le cœur sur la main, attentif aux autres, toujours prêt à apporter son soutien. En ça, c'était un homme exceptionnel, doté d'une humanité qui, moi, m'a profondément touché. Travailler avec Jacques Chirac, c'était rentrer dans l'intimité de Jacques Chirac et lui-même rentrer dans l'intimité de toute une famille. Il suivait ce que faisaient mes enfants à l'école, les dates anniversaires, connaissait très bien mon épouse. C'était vraiment quelqu'un qui étreignait. Et je pense qu'en ça, chacun des Français aujourd'hui se sent un peu orphelin. On a tous perdu un père, un grand-père, quelqu'un qui nous faisait aimer la vie plus grande et peut-être plus belle.
Est-ce que vous avez continué, à aller le voir ces dernières années, Dominique de Villepin, même pendant la maladie où c'était trop difficile?
J'ai essayé et malheureusement son état de santé ne le permettait pas autant que je le souhaitais ou que beaucoup d'autres le souhaitaient. Mais c'est quelqu'un qui est resté présent en moi tout au long des années. Mais qui le restera, bien sûr.
La presse, ce matin, consacre des pages et des pages à Chirac, sa jeunesse, sa vie politique, la présidence, les trahisons, mais il y a toujours quelque chose qui résiste, quelque chose qu'on ne sait pas, Dominique de Villepin. Il y a un mystère Chirac, une énigme. Est-ce que vous l'avez percé? Est-ce que vous avez connu un homme que nous n'avons pas connu?
Sans doute, à la fois parce que je me suis engagé auprès de lui, j'ai commencé à travailler avec lui en 1980, dans la phase qui précédait son ascension à l'Élysée, que j'ai participé à la très difficile victoire de 1995 et à tout ce qui a suivi. C'était un homme qui avait une formidable capacité à encaisser. Et on pensait, pour certains, qu'il était impassible, que rien ne le touchait. C'était un homme qui cachait ses émotions, cachait sa souffrance.
Mais il en avait, ou il était indifférent?
Il ressentait extraordinairement vivement les choses. Vous connaissez la formule de François Mitterrand, pour un homme politique, la première qualité, c'est l'indifférence. Ce n'était pas une qualité de Jacques Chirac. Non, il n'était ni indifférent à ce qui lui arrivait, ni indifférent surtout à ce qui arrivait aux autres et à la France. Il le ressentait profondément et l'exprimait. Rappelez-vous, quand nos soldats français ont été pris dans le piège en Bosnie, ça a été en conseil restreint, en conseil de défense, un énorme cri d'indignation. On ne peut pas laisser des soldats français mourir sans leur donner la possibilité de se défendre. Et ça a été au lendemain la reprise du pont de Verbania. C'est quelqu'un qui ressentait profondément l'injustice et le devoir que nous avions vis-à-vis des Français, le cri, la maison brûle, qui a aiguisé la conscience écologique. Ce sentiment que la France devait reposer à la fois sur des principes et sur des valeurs, mais en même temps sur quelques grands piliers, l'unité de la nation, un État fort, il aimait ceux qui servaient l'État, il aimait les fonctionnaires, et c'est un sentiment, malheureusement, qui s'est un peu perdu au fil des années. Mais au-delà de ça, il avait cette qualité très grande, Dominique Seux l'a rappelé, il avait le goût du quotidien des Français. Et quand il a lancé ses grands chantiers, j'étais à ses côtés à l'Élysée en l'an 2000, que ce soit le handicap, que ce soit l'insécurité routière, que ce soit le cancer, c'est parce qu'il savait que beaucoup de Français dans les familles étaient touchés par ces drames et qu'il voulait les aider au quotidien. Et en même temps, on a rappelé le précurseur, l'homme de la paix, l'homme du multilatéralisme.
Alors on y vient, justement.
Et l'homme de l'écologie.
Sa politique étrangère, Dominique de Villepin, a été marquée par le non à la guerre en Irak, un non que vous avez incarné vous-même à la tribune des Nations Unies. A-t-il hésité au moment de refuser que la France participe à la première guerre d'Irak? Comment la décision fondatrice a-t-elle été prise?
Non, il n'a pas hésité parce que cette décision, elle était enracinée dans une vision du monde. Le sentiment très profond que nous pouvions aller vers un choc des civilisations, le sentiment très profond que l'interventionnisme militaire déstabilisait les sociétés. Déjà, nous voyons au quotidien à quel point l'enlisement était là dans la guerre d'Afghanistan, et la très profonde connaissance du monde arabe. L'idée d'envoyer des soldats, d'envoyer des armes sur une terre arabe, en terre étrangère, c'était prendre le risque d'une profonde déstabilisation durable. Rappelez-vous le rêve de George Bush. On rentre en Irak, on pacifie l'Irak et on ressort par la grande porte à Jérusalem en ayant créé un cercle vertueux au Moyen-Orient. Il savait que tout cela reposait sur du sable.
Jérusalem, on se souvient de son altercation avec les soldats israéliens. This is not a method. Do you want me to go back to my plane? Vous parlez de sa grande connaissance du monde arabe. Est-ce que vous diriez qu'il est le dernier à avoir ce qu'on a appelé la politique arabe de la France?
Oui, il est le dernier à avoir eu cette ambition. Et en même temps, le monde a changé. Le monde arabe a changé. Et aujourd'hui, on le voit bien, les choses sont profondément différentes. Mais ne l'oublions pas aussi, il a été le dernier président à avoir connu la guerre. Et la guerre dans
avoir combattu la guerre d'Algérie,
avoir vécu la guerre dans sa chair, avoir vu des camarades tomber à côté de lui, cela l'a profondément marqué. Et il avait une connaissance si intime des autres cultures qu'il savait que l'intervention militaire des soldats en terres étrangères, cela suscitait immédiatement des réactions. Et il avait vu venir, il avait compris que l'islamisme radical était aussi un mouvement de résistance à la mondialisation. C'était un mouvement comme le populisme qui se nourrissait en quelque sorte de nos propres erreurs et de nos propres excès.
Chirac, c'est aussi une allure, un charisme, une puissance, une vitalité. Diriez-vous, Dominique de Villepin, que c'est un type d'homme politique qui n'existe plus aujourd'hui?
Oui, parce qu'il avait à la fois une formation exceptionnelle, des études très abouties, une véritable culture, et en même temps une connaissance du terrain, une connaissance des marchés, une science de la politique du quotidien tout à fait exceptionnelle. Mais derrière ça, il y avait quelque chose de très particulier. Beaucoup d'élus veulent être réélus, et passe beaucoup de temps à ça. Lui, il aimait ça. Il aimait ça. C'est-à-dire qu'il se réveillait le matin avec un appétit formidable et une envie d'aller vers les Français. Et donc, oui, il se nourrissait. La politique, c'était pas uniquement un combat, c'était pas uniquement le fait d'une bête politique qui cherche à gagner des batailles, non. Il aimait cette vie-là.
C'est aussi une autre manière de faire de la politique qui est plus possible aujourd'hui. Thomas Legrand en parlait, ultra-cumulard, être élu et mis en examen, les affaires nombreuses. À l'époque, la politique n'avait rien à voir avec la morale.
Nous sommes dans un monde d'avant le tout communication, d'avant les réseaux sociaux. Alors, je ne vous suivrai pas quand vous dites la morale. Les règles étaient autres. Les règles et les pratiques étaient autres et les mentalités étaient différentes. Vous savez, pour être élu, une campagne électorale, ça s'invente pas, ça doit se financer. Donc, les pratiques et les règles n'étant pas aussi fixées qu'aujourd'hui, et bien évidemment, les choses se faisaient différemment. Mais je ne dirais pas en dehors de la morale. Jacques Chirac était quelqu'un profondément épris du respect des règles, du respect des principes et du respect des valeurs.
Dominique de Villepin, on a beaucoup parlé du non à l'Irak, du discours du Veldiv, de l'intuition écologique de Chirac. Et puis, il y a les ratages. La dissolution manquée que vous avez voulu en 97. Et puis, une forme d'immobilisme. Alors, Nicolas Sarkozy a parlé du roi fainéant. Est-ce que vous trouvez ça injuste? Est-ce que ça reste sa grande erreur, cette dissolution?
C'est une autre vision de la société française. Jacques Chirac était très attentif au mouvement de la société française et à la sensibilité des Français. Et ça, ça le guidait en permanence. Il avait toujours un instituteur de Corrèze, la postière d'un village proche de chez lui pour l'alerter, l'avertir sur tel et tel risque. Mais je ne vous suivrai pas et je ne suivrai pas non plus Dominique Seux. Il avait en même temps le goût de la modernité. Politique d'innovation, politique de recherche, lancement des pôles de compétitivité. Il avait compris qu'il y avait des grands défis et des grands combats à mener. Mais il n'a pas cédé à l'idée de la réforme à tout prix. N'oublions pas la réforme en France, ça fait 40 ans qu'on nous serine et il savait que les Français étaient là. Par contre, il avait véritablement une volonté de bonne gestion et de bon gouvernement, de bonne administration. Et quand il a lancé sa politique de réduction de déficit, quand il a lancé sa politique de désendettement, ne l'oublions pas, et là aussi Dominique Seux fait à mon avis une légère erreur statistique, en 2007, les résultats de la France étaient meilleurs que l'Allemagne pour le chômage, pour la réduction des déficits et pour la dette. Reportez-vous à nos chiffres, ainsi que pour la croissance. Donc dans ce contexte-là, véritablement, oui, des choses ont été gâchées, mais ne faisons pas apporter à Jacques Chirac, qui était prêt à tout accepter et à tout supporter, ne faisons pas apporter à Chirac la responsabilité de tous les maux de la France.
Une dernière question, Dominique de Villepin. Est-ce que vous parliez de littérature avec lui, d'art, de peinture? Pourquoi ne voulait-il pas montrer qu'il était un homme cultivé et qu'il aimait les arts?
Parce que c'était un homme pudique, profondément pudique. Ce qu'il savait, il ne voulait pas s'en servir pour allécher les lecteurs ou flatter son ego. C'est quelqu'un qui se nourrissait intérieurement, et je l'ai vu souvent, parfois même en Conseil européen, lire des documentations très savantes sur les bronzes archaïques chinois, la situation au XIIe siècle en Afrique. Mais il n'éprouvait pas le besoin de le montrer. Mais cette attention à l'autre, cette culture de l'autre, ce sentiment que partout, quelque part dans le monde, il y avait quelque chose à apprendre. Rappelez-vous le combat qu'il a mené sur l'Altiplano en Bolivie pour que les Boliviens aient le droit de jouer au football en championnat en altitude. C'est des choses qui n'ont rien dit de personne. C'est véritablement Jacques Chirac.
Merci beaucoup, Dominique de Villepin. Merci beaucoup.